Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « La communauté est la cellule de base du monde nouveau ». Cette idée va présentement à l'inverse complètement de ce qui se passe en réalité. Le monde s'en va directement vers la centralisation, dominée par les Illuminati, dominée par les hommes gris, par les grosses familles, comme les Rothschild, la famille royale, les Bush. C'est des gens extrêmement riches qui possèdent le monde et qui veulent tout centraliser pour justement nous rendre encore plus esclaves. Donc, quand je dis que la communauté est la cellule de base du Nouveau Monde, c'est notre planche de salut si en tant qu'humanité, on veut se libérer une fois pour toutes et vivre dans le bonheur sur la Terre. Ce sera notre sujet aujourd'hui.
Oui, bien, moi j'aime l'idée d'une communauté. Bien, souvent, dans ce que j'ai pu remarquer dans les liens avec les amis, oui, comment est-ce que pouvons-nous dire, chacun d'entre nous, qui sont nos vrais amis, les identifier, etc. Mais je pense que je sens que j'ai particulièrement besoin de me sentir entouré, de sentir une force d'une communauté de gens qui partagent des points avec moi. Peut-être que... par le passé, j'ai toujours été quelqu'un assez individualiste et tout, qui aimait être seul. On dirait que les choses tendent à changer avec le temps. Peut-être justement en partageant plus de réflexions, en ayant plus de conscience sur comment être heureux. Je sens que je dois créer une dynamique propice là, au fait de me sentir bien. Mais c'est aussi d'avoir ce noyau de gens, d'amis, avec lequel on partage des choses en commun, puis qu'on sent qu'il y a une entraide, qu'il y a une collaboration, que la personne est là. Lorsqu'on appelle quelqu'un, lorsqu'on a une communication avec quelqu'un de son entourage, bien, c'est un vrai contact. Si j'envoie un message, un courriel, c'est sûr qu'on est toujours de plus en plus, chacun a son style, mais moi, personnellement, j'aime bien envoyer des messages textes, des courriels ou quoi que ce soit, mais c'est quoi cette idée des gens qui vont nous répondre, ça va leur prendre une éternité, une journée, deux jours, trois jours, plusieurs jours sans répondre. Quel est le vrai contact que j'ai, que nous partageons, que nous avons avec ces gens-là? Donc, moi, j'aime la communauté, de sentir que les gens avec qui je partage une proximité, une intimité, que la vie soit belle, j'aime partager des moments de bonheur, bien, je veux que ces gens-là soient accessibles, que je puisse sentir leur affection à mon égard, quelque chose comme ça, je ne sais
trop. Tout à fait normal.
Ouais. C'est comme si on dirait que j'ai toute une autre vision, on dirait que la plupart des gens qui sont tellement dans une réalité de vie par automatisme, ou pris par leur travail ou par leur union de vie à deux, hein, il y en a qui sont, c'est leur seule réalité, on dirait, c'est leur conjoint de vie, leur partenaire, pour dire qu'il n'y a plus rien autour.
Mais pour faire écho à ce que tu as dit tantôt, les courants d'influence sont vraiment portés à amener les gens dans un sens à être compétitifs, à se distinguer, de se séparer des autres, dans un sens où ce que l'individualité est prônée dans le contexte social, pas dans un contexte de développement spirituel personnel, mais dans un contexte de la réalité physique, où est-ce que l'individualité, me, myself and I, et puis mon char, mon affaire, mes mérites, mes victoires, moi le gagnant, moi qui se discerne de toutes les autres et puis qui se poigne par les bretelles, puis qui fait en sorte que je vais être meilleur que l'autre, puis que je vais défoncer l'autre, puis je vais avancer plus que l'autre. Et puis tout ça, cet esprit de compétition qui vient avec des mérites ou des trophées monétaires, souvent. C'est ce genre d'esprit-là compétitif qui a été ancré dans notre tête puis dans notre pensée depuis des années avec toutes sortes de psychologie populaire, toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est ça qu'on s'aperçoit à un moment donné, après qu'on a fait le tour du cirque là, à cette fois-là, on s'aperçoit que ce modèle-là, là, il est pourri.
Ça aurait pu se dire une minorité de gens s'aperçoivent parce que la majorité des gens, franchement, ils sont complètement dans le panneau. Ils croient vraiment que le problème, à mon avis, c'est le mélange entre la communauté et la société. Oui. La société, c'est vraiment trop vaste. On est un numéro, premièrement. Oui. Nous sommes à la naissance étampés d'un numéro d'assurance sociale qui est notre numéro. On est une compagnie.
On est une compagnie, oui, c'est ça. Et cette individualité-là continue d'être encouragée, continue d'être démarquée et tout ça. Et ça amène à ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, ceux qui sont des victorieux, ceux qui ne sont pas. L'opposé de ça, moi, je dirais, c'est un esprit où ce que la société, la communauté, se munit d'une attitude au lieu de compétition, on substitue le mot compétition à le mot coopération. Et si on a en ce moment des gens qui se regroupent pour un but commun, un but principal assez bien défini pour garder une direction assez constante, à ce moment-là, on peut avoir des coopérations puis de la magie puis refaire le monde. Donc, l'unité, l'idée d'un concept d'une communauté, c'est vraiment la base. Il faut que ça reprend à la base. Et c'est à partir de là que les miracles peuvent s'opérer.
Bien, par exemple, Radio Centre-Ville est un de ces types de miracles. Ça fait 40 ans que ça existe. C'est vraiment les membres qui possèdent la radio. Et ça, moi, je trouve ça beau parce que, justement, ça permet l'impossible. Qui aurait cru qu'un organisme pouvait acheter son propre immeuble et le gérer? À une certaine époque, c'était pas pensable parce qu'un organisme... on était une entreprise, il faut faire de l'argent ou sinon tu n'en fais pas, mais tu peux rien posséder. Je trouve ça beau parce que ça va complètement avec mon idée du communautarisme. Moi, je crois à l'individualisme communautariste. C'est-à-dire que oui, l'individualité est importante. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau. T'sais. Mais aujourd'hui, ce dont tu parles, Robert, c'est juste ça. C'est juste le moi, c'est juste exacerbé complètement, mais il n'y a pas de communauté. Et c'est de l'individualisme à outrance.
Parce qu'on met devant nos yeux un trophée. Il y en a juste un. T'sais, il y en a juste un, puis ils sont 15 aux Jeux olympiques à vouloir le même trophée. Si tu l'as, tu gagnes. Le reste, gagne de perdants. Toute la gang, c'est des perdants. Il peut juste avoir un victorieux de la médaille d'or. Le reste, c'est des perdants. Ce genre de mentalité-là, là, vite faite, est vraiment là, elle noie le marché, elle noie la pensée de la société. Et cette idée-là que soit tu gagnes, tu as le top du bout de tout, là, puis que la gang, c'est une gang de perdants, c'est comme insensé. Puis tu crois, quand tu y penses juste les Jeux olympiques, par exemple, les centaines d'athlètes qui s'entraînent pendant des années, et puis qui arrivent à un moment donné, puis tout ça pour rien, tout ça pour pas avoir la médaille d'or, pas avoir scoré le top de top, parce qu'il y a juste un prix. J'ai quelque chose de malade là-dedans.
Mais parce que ça a été ça a divergé à un certain point. Parce que les vrais Jeux olympiques, les premiers chez les Grecs, étaient complètement différents. Premièrement, il n'y avait pas de prix en argent. Quand tu gagnais, tu recevais une couronne de laurier. Mais tu étais un héros. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas être tu pouvais pas participer si en même temps tu ne pouvais pas résister de la poésie et faire de la musique. Donc, ça prenait une vaste personnalité, une belle personnalité, alors qu'aujourd'hui, c'est des spécialistes. C'est juste un tas de muscles qui, généralement, ne sont pas capables de faire autre chose. Ils ne seraient pas capables de chanter, d'émettre de la beauté ou de bien penser. Et c'était ça, les Olympiques, à l'époque. C'était un festival de beauté. Voir, il n'y avait pas cette carotte. La carotte n'était pas immatérielle. C'était t'avais gagné, ton nom allait rester, et t'allais, mais t'allais pas faire de l'argent parce que t'allais faire de la pub. Il y avait pas, mais c'est il y avait ça. Pas ce genre de choses à ce moment-là.
L'argent demeure la drogue, la récompense, le trophée, cette chose que les gens sont prêts à se prostituer. Si c'est pas de corps, c'est d'esprit. Si c'est pas d'esprit, de corps, c'est n'importe quoi. C'est vendre les autres s'il faut. C'est n'importe quoi pour ce dieu d'argent qui est le dieu du temps. Donc, c'est triste. C'est pas un portrait très, très exaltant de où ce qu'on est rendu.
Il y a toujours les gens qui vont aimer se retrouver en campagne, s'isoler, d'être un peu ermite. On peut comprendre pourquoi, devant cette telle réalité, là, que les gens qui s'isolent, qui sont qui deviennent un peu déviants de toute cette société-là, qui ne veulent pas y contribuer. Je dis pas que c'est une fin en soi, que c'est souhaitable, mais je pense qu'il y a une façon de pouvoir expliquer qu'il y a tant de gens qui vont aimer se retrouver seuls et se faire une vie qui leur est propre.
Bien, nous allons passer à une pause musicale avec Jonathan Pinchot et sa chanson qui s'appelle « Les vieux chums ». Puis nous allons revenir après avec ce thème « La communauté est la cellule de base du monde nouveau ».
Les games d'hockey sur le parking, dans le cours du palais de justice, la cachette avec les cousines des pêches, ils contingent jusqu'à 10. Les mauvais coups derrière l'école, les batailles avec les gars, qui est-ce qui va freiner chez Carole, premier qui est rendu à la croix. Du quai, les Willys en 10 vitesses, on pourrait peut-être trouver où sont cachés les films de fesses. Se faufiler entre les dunes pour espionner les nudistes, lever les cages au clair de lune et vendre le homard aux touristes. Ça fait trop longtemps, il me semble, qu'on n'a pas trippé.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La communauté est la cellule de base du monde nouveau ». La chaleur humaine, c'est essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est à un point où il en manque dans notre société ici, en tout cas dans la société occidentale nord-américaine. Là, je vais parler de ce que je connais, parce qu'ici, l'hyper-individualisme, l'hyper-carriérisme, les gens pensent vraiment à eux, ce qui est bien aussi. Mais en même temps, je crois qu'il est important de penser aussi en termes de communauté, de famille, d'élection. Et c'est peut-être parce que l'idée de la famille, qui moi me déplaît beaucoup, l'idée de la famille biologique qui est nécessairement ta vraie famille, pour moi, c'est pas la vérité. C'est pas parce que je suis né à ma mère et à mon père qu'ils sont nécessairement de ma famille d'élection. Et c'est possible, on sait, mais c'est très rare dans l'humanité d'avoir, par exemple, un parent, des membres de notre famille qui sont aussi des gens qui vont partager nos valeurs. Parce que pour moi, la famille d'élection, c'est une famille avec, de gens avec qui je partage des valeurs. Et pour moi, je suis très spécifique. Par exemple, c'est évident que dans ma famille, ce sont des gens qui veulent avoir plusieurs partenaires. Parce que je ne pourrais pas avoir une vraie famille avec des gens qui croient au couple fermé. Parce que ça ne va jamais fonctionner avec moi. Et ça ne fonctionne pas dans mon modèle de communauté, justement, de tribu, où il y a un échange. Il y a une vraie générosité à tous les niveaux, monétaire, l'entraide, un petit coup de main, échanger des partenaires sexuels, avoir vraiment une ouverture. Pour moi, c'est ça, la famille. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement le contraire. Ça peut être justement avoir des couples fermés pour partager des valeurs, aller avoir un terrain, tout le monde ensemble, au lieu d'acheter un terrain, tout le monde séparé, bien, pourquoi pas acheter un grand terrain, tout le monde ensemble, et on se le divise.
À l'époque où j'étais au Nouveau-Mexique, il y avait un développement qui était pas loin de chez moi. On avait presque, moi et mon ex à l'époque, on avait presque opté pour cette option-là. L'idée, c'était tu payais un montant d'argent pour acheter un membership sur une terre sur laquelle tu devais construire un des styles de maison qui était le seul style de maison qu'on pouvait faire, qui était un Earthship, qui est un bâtiment, un type de maison expérimentale, autosuffisante, etc., etc. Et seulement que les Earthships pouvaient être bâtis là-dessus ou des variations sur le thème. Mais l'idée, c'était des maisons faites de pneus désuets, recyclés. Donc, ça a été un modèle intéressant. J'ai vu des efforts là-dessus, mais ça restait encore individuel. Donc, les gens devaient financer leurs propres projets, etc. Mais il y avait des concepts aussi qui avaient été sur les plans de dessin, de conceptuel, où ce que tu peux faire des Earthships qui seraient une énorme Earthship, où ce que ça pourrait être comme un genre de bloc appartement. C'était vraiment intéressant parce que la structure pouvait permettre l'autosuffisance à un grand nombre de gens pour ceux qui désiraient opter là-dessus. Et c'est l'idée d'une ouverture. C'est juste que les gens... C'est comme... Comment tu... Ça, c'est... L'exemple qu'on parle en ce moment, c'est un petit peu le genre de conversation que tu aurais à une table où ce que tu dirais, est-ce que j'aimerais mieux être dans une communauté où je n'ai pas vraiment de choix autant d'individualité dans le sens que je ne peux pas décider que ma cuisine va avoir des comptoirs de granit et puis que les robinets vont être du style Louis XV et puis que, je ne sais pas, la manière que les meubles vont être placés, Fait que ces genres de choix-là que tout le monde semble vouloir désirer fort d'un côté. Tu sais, il y a des gens, quand tu fais face à ta première maison ou quand tu veux faire une rénovation complète, là, il y a beaucoup de choix et de décisions que tu fais face. Et c'est un peu ça. L'idée, tu vois-tu de ce côté-là, ou tu serais-tu correct d'entretenir l'idée où ce que je possède moins, je paye moins, je possède moins, je contrôle moins, mais j'ai aussi en même temps beaucoup plus de liberté que de responsabilité là-dessus, parce que la plupart de l'infrastructure est déjà sur place. Je ne manquerai jamais d'eau, je ne manquerai jamais de toit, je ne manquerai jamais de chaleur, je ne manquerai jamais de nourriture.
Mais par exemple, si tu es un gros groupe d'amis, tu peux acheter un bateau à plusieurs, ça coûte moins cher, puis on se le sépare, alors que la personne qui va l'acheter toute seule, ben elle va devoir tout payer, il va lui appartenir. Mais moi, je pense beaucoup dans ce sens-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Bateau ou une voiture. Ben, oui, le bateau, souvent, avec les gens qui ont les voitures. Le bateau, par exemple, combien de fois dans l'année la personne va l'utiliser, là, s'il est seul propriétaire? Ou bien après, il peut avoir une lassitude ou d'être seul avec sa famille rapprochée, plutôt que s'il y a une communauté, puis si on est plusieurs avec le propriétaire du bateau, ça va donner peut-être une synergie, le goût de faire des activités, de faire des excursions plus longues. Un qui navigue, qui prend soin du bateau, les autres qui prennent un verre et tout sur le bateau. Il y a peut-être plus d'amusement ou plus de facilité aussi à l'entretenir, à le déplacer ou à se motiver à faire des sorties en bateau. Pour une voiture, encore là, on sait combien peut coûter l'entretien d'une voiture. Etc. Donc, puis la plupart des gens n'ont pas besoin en continu de leur fameuse voiture. Là. Ils l'ont une heure ou deux pour quand ils en ont besoin pour certaines courses. C'est pour ça que les idées de voitures en commun, là, comme une auto, tous ces services-là, je trouve que c'est quand même très pratique, très bien pensé.
Et c'est ça que je pense que les communautés peuvent donner, des genres de services ou de suppléments. Parce que pour moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais ma compagne aime utiliser Car2Go. Et ça coûte presque rien. Ça coûte moins cher qu'un taxi. Pas besoin de payer d'assurance. c'est incroyable. C'est juste le plaisir. Mm-hmm. On n'a pas à réparer l'auto, il n'y a rien à faire. Ton travail, c'est de bien la conduire, c'est tout, de ne pas faire un accident, mais l'auto, elle est là, tu la prends, tu la remets dans un autre parking. Et la communauté, je pense que ça peut rendre les choses beaucoup plus faciles parce que c'est comme un lubrifiant, si on pourrait dire. Quand tu es plusieurs, si tu as un problème, il y a quelqu'un pour t'aider. Si tu manques d'argent, mais tout d'un coup, il y a un emploi ou il y a un échange que tu peux faire. Il y a toujours des opportunités, alors que quand on est seul, et ça, c'est évident pourquoi aujourd'hui la société est très divisée. C'est divisé pour mieux régner. Donc, diviser tout le monde, puis faites en sorte que les gens soient incapables de participer à la vie communautaire pour de vrai. Ça te fait des handicapés. Et on est facile à manipuler dans ce temps-là.
Pas juste ça, mais le fait, à l'échelle de l'économie, les banques et tout ça, les gouvernements maintiennent, les banques centrales maintiennent un taux d'inflation assez pour toujours faire en sorte que le taux de chômage est tel que la réserve d'employés disponibles pour être engagés, les sans-emploi, autrement dit, il y en a toujours plus qu'il y a de jobs de disponibles, autrement dit. Il y a toujours plus de demandes pour des emplois qu'il y a de la disponibilité. Et ça fait, bien sûr, le plaisir des grosses corporations qui peuvent maintenant baisser les salaires appropriés puis demander d'en faire plus pour moins. Tu sais, cette genre de pression économique-là reste toujours là. Quand on se regroupe en communauté, si on est capable d'être plus flexible et puis de ne pas être aussi pointu sur avoir le comptoir en granit, comme je disais tantôt, puis ces autres désirs-là, à ce moment-là, plusieurs peuvent se regrouper pour peut-être avoir un modèle beaucoup plus robuste, beaucoup plus capable d'aller dans le temps et de durer longtemps, et en même temps réduire le besoin d'avoir à travailler pour 15 cents de l'heure et puis faire plaisir à son boss, là.
Mais si on veut passer à travers les épreuves que vont nous faire subir les Illuminati, les hommes gris, il va falloir se mettre en communauté. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça va se démantibuler, la société. On ne devrait pas... par exemple, les Grecs, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Et au lieu de manifester, ils devraient s'organiser ensemble et justement sortir du cadre habituel et s'entraider. Arrêter d'utiliser l'argent pour tout. C'est une bonne manière, à mon avis, de déjà mettre un premier pas en avant. Par exemple, moi, j'essaie de faire des échanges quand c'est possible avec des clients, échanger des services. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent qui passe, c'est simplement un cadeau. Et si on commençait à faire ça, si 50% des bénéfices de notre vie venaient, par exemple, d'échanges, plus ça va aller, ben plus moins on va avoir besoin des gouvernements, des banques, etc. On va pouvoir redevenir indépendant, on le voit en cellule, même pas en société, là. En petits groupes là, de 100 à 50 personnes. Pour moi, une communauté, là, tu dois connaître le nom de tout le monde. Une vraie communauté, tu connais le nom de tout le monde. Un peu comme à l'époque de mes parents qui vivaient à la campagne, tu avais une paroisse et tout le monde se connaissait. Et ça permettait des échanges incroyables. Tu sais qu'un tel fait ci, bien, tu peux le présenter à telle autre personne. Moi, je trouve que c'est un grand avantage.
Et c'est propice sans doute également pour la chaleur humaine, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, de se rapprocher, d'être en groupe, de bien se connaître, d'avoir une familiarité avec les gens, une aisance. C'est sûr que c'est propice aux rencontres, aux rapprochements intimes, faire l'amour et tout. Se démontrer de l'affection au jour le jour, c'est très bon.
C'est curieux, on dirait. Je pourrais dire que même les gens que je connais il y a beaucoup de gens en ce moment que je pourrais mettre sur ma liste, justement, d'une communauté. Et pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont les plus forts, mais ils ont tous quelque chose d'unique à contribuer. Et quand on parle en même temps de communauté, puis d'un autre côté, d'une ville comme Montréal, où je ne sais pas combien de milliers puis de milliers de gens seuls, en dépression, dans un petit appartement pogné tout seul, c'est triste et c'est un grand contraste avec ce qu'on parle en ce moment.
Bien, on va faire une pause avec la chronique Le Gay Savoir et nous allons revenir après avec ce thème, la communauté est la cellule de base du monde nouveau.
Chers auditeurs, me revoici pour ma chronique du Gay Savoir. Ici Jacques Couture. Je m'entretiens avec vous aujourd'hui du fait d'aborder et de séduire. Pour commencer, je désire vous communiquer mon désarroi des relations humaines, mais aussi mon optimisme. Vous avez sans doute vécu des déceptions en amitié, des amours perdus, de la tristesse émotionnelle. Comment bien s'entourer, se faire un réseau d'amis et d'amoureux? J'ai la conviction que plus nous sommes nous-mêmes, plus il est possible de rayonner et d'établir des contacts. J'ai eu une expérience récente en allant dans un bar. En me rendant aux toilettes, j'ai vu un très beau mec. Il a un si beau pénis et il urinait avec aisance. Tout de suite, j'ai eu le goût de faire sa connaissance, mais étant si excité, je me suis senti figé. Mais que cela ne tienne, je le revois plus tard et je le remarque bien entouré d'amis au bar. J'attends le moment propice où il est seul et je vais vers lui pour le saluer. Quel extraordinaire accueil il m'a fait. J'avais l'impression que j'étais en train de naître et j'étais fort surpris qu'il me parle rapidement de sa vie intime, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Je me suis reconnu en lui, il est fort ouvert. Dans son imaginaire et sa fougue, il pouvait tout envisager sexuellement, m'offrir tout ce que je désire. Ah, mais la vie offre tant d'abondance à saisir, mais il faut être réceptif. Ainsi, j'ai senti le monde se réinventer, et voici, je suis disponible à la jouissance et au bonheur de la vie. Dans le même ordre d'idées, je voulais revenir sur un sujet d'actualité, l'histoire de Joël Legendre. J'étais curieux de l'entendre en entrevue 3 mois après sa sortie de la sphère publique. À ma grande surprise, il était comme en confession devant le curé. Il parlait plutôt de sa thérapie avec des psychologues. Il expliquait que son geste de s'exhiber dans un parc était un suicide personnel et professionnel, selon l'idée qu'il a été persécuté et intimidé dans son enfance. Il en vient à se rejeter lui-même. Je ne vais pas me prononcer sur cette réflexion, mais plutôt sur la polémique que cela a provoquée. La polémique, j'entends, là, de son geste initial lorsqu'il a été arrêté dans le parc. J'ai tellement trouvé insipide les gens qui ont condamné son geste. La sexualité est si vaste et les fantasmes sont multiples. Qui n'a pas rêvé de faire un jour ou l'autre l'amour dans un parc ou dans un lieu public? Et le fait de risquer de se faire surprendre rajoute à l'excitation. Oui, il y a cette catégorie de gens, mais il y a aussi les autres, ceux qui sont plutôt peureux, moralisateurs, qui voient la sexualité comme étant sale. Donc, pour en venir à M. Legendre, j'aurais aimé l'entendre dire que ce qu'il a fait, c'était de mettre du pétillant dans sa sexualité, de ne pas se présenter comme un être victime de la situation de son passé. Il se démontrait comme avec l'attitude d'un pécheur repentant d'avoir fait un mauvais coup et en quête d'absolution. Une personne qui a peur de perdre quelque chose va réagir sans doute de cette façon. À mon avis, ce n'est pas ainsi que nous reconnaissons les marques d'un grand homme. Pour terminer ma chronique, je ne vais pas cette fois vous proposer une vidéo, mais plutôt de vous inviter à être attentif et regarder les gens et la vie autour de vous et la réalité de la vie. N'oubliez pas, vous construisez le monde par votre regard et vos pensées. Je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Pourquoi pas vous rendre dans un lieu public pour vous amuser un peu avec vos compagnons. Votre vie prendra certainement un tout nouveau élan.
Sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la communauté est la cellule de base du monde nouveau. Je pense qu'il faut abandonner l'idée d'une morale commune pour toute l'humanité. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on est tous inégaux en intelligence, en richesse, en ressources, etc. Donc, je crois que le plus intelligent, c'est de se regrouper selon nos valeurs et de se créer nos propres codes d'éthique, nos propres lois, si on le veut. Mais il ne devrait pas y avoir des lois généralisées qui briment les gens comme aujourd'hui. Je trouve ça ridicule. Et puis, c'est encore un plan machiavélique pour nous isoler, nous faire craindre le système. Et si on était un groupe, par exemple, si tout le monde arrêtait de payer leurs impôts d'un coup, ils ne pourraient rien faire. Mais si moi j'arrête toute seule, je vais me faire taper dessus. Et c'est tout là. Est-ce qu'on peut être solidaire dans notre société? Est-ce que c'est encore capable? Est-ce que c'est encore possible sur la planète Terre? C'est la question que je me pose présentement en regardant le monde.
C'est très difficile.
Autant de guerres, c'est pas normal.
C'est très difficile parce que même dans un groupe d'une pensée différente.
Il y a eu la période de Peace and Love, justement, où les gens ont expérimenté. Il y avait une idée, une morale, de valeur commune, de la fête, de la sexualité libérée et tout. Mais justement, sans doute, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs l'avaient peut-être en fantaisie, en fantasme, aimaient cette idée-là. Mais par-dessus tout, dans d'eux-mêmes, ils étaient peut-être conventionnels, en tout cas certains d'entre eux. Puis, ils étaient possessifs. Et oui, que leur partenaire puisse avoir plusieurs autres partenaires, avoir une vie sexualité libérée. Mais après ça, ils devaient avoir les fameux sentiments des gens qui se sentaient jaloux ou quoi que ce soit de l'autre et tout. Puis, ça n'a pas fonctionné au bout du compte parce que c'était pas un vrai regroupement de gens qui partagent ça en commun. Il y en avait, j'imagine, leur motivation, c'est de faire la fête, prendre de l'alcool puis des drogues et tout. Puis, que l'éthique ou la vraie réflexion derrière tout ça, ils ne la partageaient pas, cette réflexion, ce désir commun d'avoir un noyau de fête et de bonheur et de sexualité libérée.
Mais comme à travers l'histoire, ces jeunes-là se sont fait taper dessus par le
système.
Par le système, il a été très, très... il les a étendus assez fort. Et si ceux qui n'avaient pas encore compris dans les années 80, on lance le sida soudain, et c'est pas des choses qui arrivent par hasard. C'est fomenté par en haut et là, les gens étaient rendus trop de sexualité, trop de communauté, trop de communion. On va jeter quelques nouvelles maladies. Et puis, ça a fonctionné. Les gens ont peur des gens aujourd'hui. La majorité d'entre les gens qui font l'amour se protègent parce qu'ils n'ont pas confiance à l'autre. Ils ne font pas confiance à leur propre intuition. Et c'est le grand danger, c'est ça. Quand tu penses aujourd'hui que la moitié des gens, aussi en Amérique du Nord, ont des maladies transmissibles sexuellement, il y a vraiment un problème parce que la sexualité, c'est la communion. C'est communier avec les gens. Si les gens sont malades à ce niveau-là, voyez ce que ça donne. Ça donne... Et c'est tout programmé. Hein. Je crois que si on arrivait à nous extirper de cet environnement qui nous empoisonne présentement, hein, parce que c'est concerté par tout le système, l'appareil manipulateur plutocratique, à tous les niveaux, la nourriture, les chemtrails, et tout ce qui nous met pour nous empoisonner, finalement, nous rend de plus en plus faibles. Donc, plus ça va aller, plus ça va être difficile de se regrouper en cellules.
Les gens vont en plus consulter, vont voir les médecins en pensant que c'est l'absolu, la confiance, etc., qu'ils ont une vérité scientifique et que ça a une valeur. Moi, j'ai bien aimé, il y a des médecins qui le reconnaissent que c'est une science molle, la médecine, là, docteur Lamontagne et tout, l'ancien... président du Collège des médecins l'a dit, il y a plein d'exploits, de réussites. Oui, les antibiotiques, on peut se fier à certaines bases, à certains trucs. Je pense que ça aura eu un effet positif, en tout cas, pour contrôler ce genre de phénomène ou certaines bactéries ou certaines maladies qu'il y avait à une certaine époque. Oui, peut-être dans ce sens-là, il y a eu une trouvaille, il y a eu de l'ingéniosité, il y a eu une innovation là, qui a permis la santé, parce que semble-t-il, vivre aujourd'hui sans antibiotiques, est-ce qu'il y a 100 ans, il y en avait très peu de gens qui vivaient plus de 65 ans. Si on se base sur des comparaisons comme cela, oui, il y a du positif dans la médecine, mais globalement, je m'en méfie plutôt.
Tu sais, moi, j'en viens à croire que c'est sûr qu'il y a deux médecines, oui. Il y a deux niveaux. Et je crois que ceux qui sont en haut ont
accès
à l'immortalité par certaines technologies qui leur donnent la possibilité de se régénérer. Mais que, parce que c'est très payant que les gens soient malades, nous, ici, en dessous de la pyramide, on doit être malade et mourir. Et je ne crois pas que c'est la règle sur cette planète.
On doit être recyclé. Ouais. Et remplacé.
Et la plupart des médicaments doivent servir à accélérer le processus.
C'est un triste portrait, mes amis, que vous dressez, mais sachant cela, moi, j'ai une question plutôt à poser. C'est si c'est le cas, existe-t-il un modèle de communauté, une plateforme qui accueillerait des gens qui désireraient de se retrouver avec un code d'éthique défini?
Qu'il y a beaucoup d'exemples, mais la vraie question à se poser, c'est quelles sont mes valeurs à moi? Donc, avec qui j'ai le goût de partager? Parce que des communautés, ça se crée. Moi, je veux créer ma propre communauté de toutes pièces, avec une pensée nouvelle, une autre manière de penser. Et à travers l'histoire, ça a toujours été comme ça. Il faut que ça soit spontané. L'amitié, c'est ça. L'amour, et c'est ça la réponse pour moi.
Okay. Sinon, on pourrait voir sous l'angle des différentes ethnies. Hein. J'aime bien toutes les peuplades africaines, etc. Il y en a qui sont tellement pacifiques, qui ont un niveau de bonheur. En tout cas, du regard qu'on en a de l'extérieur. Hein. Ils ont un esprit de communauté. La dynamique est là. Ils sont tout et pour entraide. Tout sert à leur collectivité, au bonheur de chacun, pour que tous on puisse répondre à tous leurs besoins. À tout niveau, et puis ils ne sont pas à se consacrer à des tâches par un travail, par des activités qui n'ont aucun sens pour la plupart du monde ici en Occident.
Tout à l'heure, Jacques mentionnait de la campagne et d'un regroupement qui se ferait comme dans l'ordre d'un endroit comme à la campagne, ces choses-là. Et moi, j'ai vécu les deux, la campagne et la ville. Je suis revenu à la ville. Je n'hésiterai pas à retourner à la campagne selon les conditions appropriées. Mais c'est une autre dimension, ça. Si tu es pour regrouper des gens dans la communauté, l'idée d'une autosuffisance est, d'après moi, primordiale à discuter. Et à quel niveau que tu l'amènes, parce qu'il y a différentes autosuffisances de la nourriture, autosuffisance des énergies comme de l'électricité, ces choses-là, l'autosuffisance de l'eau, de l'accès à l'eau, l'autosuffisance. Tu sais, c'est à différents aspects, ces choses-là.
Bien, tu me fais réfléchir à... Je pense que c'est un livre que j'avais lu qui s'appelle Gaviota. Et c'est une communauté en Colombie qui ont pris un endroit où c'était presque impossible de faire de la culture, de cultiver. Puis il y avait des guérillas tout le tour, mais ils ont pris cet espace-là. Ils ont inventé des manières de faire, des manières inventives. C'était tous des universitaires là, qui faisaient des tests. Ils inventaient, par exemple, un frigidaire qui est capable de se refroidir lui-même avec l'énergie solaire, des choses comme ça, être auto-indépendant. Mm-hmm. Et ce que moi, j'avais compris, c'est que dans une communauté, il peut y avoir un service que la communauté va offrir. Je pense qu'une communauté peut être, par exemple, perfectionnée, être capable de faire des plaques pour chauffer les maisons, avoir cette expertise des panneaux solaires et pouvoir la vendre ou faire des échanges. Parce que moi, j'aime encore l'idée d'échanger. Mm-hmm. Parce que quand on prend l'argent, on revient toujours à ces maîtres du monde là, qui nous ont imposé cet argent. Et chaque fois qu'on l'utilise, on participe à cette merde, à cette dégénérescence. Alors que si on fait... Je suis très fier, moi, de faire des échanges parce que je me dis, j'ai compris quelque chose d'important. Je suis capable de faire un échange avec mon client. On est capable de s'arrêter sur un prix ou c'est même pas un prix, c'est une satisfaction. Il est satisfait de mon travail, je suis satisfait du mien. Et ça passe comme ça. Et si on était capable de faire ça et chaque année, on prenait de plus en plus notre place, le gouvernement reprendrait sa place. Et à un moment donné, il arrêterait de croire qu'il peut tout gérer. Et puis peut tout décider, puis nous persécuter même quand on ne fait pas ce qu'il veut. Et le gros problème, et là, à mon avis, c'est qu'on n'a pas la possibilité présentement de le faire avec facilité. Parce que tout est mis en place pour que ce soit difficile d'être dans une communauté
d'une part, mais aussi, indépendante. Il doit avoir une corrélation entre ce que tu offres comme service et quels sont tes besoins. Là. Si ton client offre toutes sortes de trucs, il rend des services, puis c'est toi, tu n'en as pas besoin de ces services-là ou de ce produit-là, donc il ne peut pas y avoir de troc et d'échange dans ces cas-là.
Oui, c'est là que ça prend beaucoup d'intelligence, c'est d'avoir des options. Oui. Ne pas avoir juste un service. Par exemple, moi, je développe sans cesse des habiletés qui peuvent être échangées. Parce que, justement, tu ne peux pas avoir... La cellule dont je parle ne fait plus appel à une spécialisation. Il faut que tu sois capable de faire un peu de tout. Mais on va passer une pause musicale avec Corneille, cette chanson qui s'appelle « Ensemble ». Puis nous allons revenir avec ce thème, la communauté et la cellule de base du monde nouveau.
Et si tu veux, on peut même aller plus loin, savoir nos petits caprices, hein? C'est peut-être les mêmes, je vois un sourire au coin. Tu vois, t'as l'air moins triste, oh, tu l'as déjà dit. Mais si tu veux,
sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La communauté est la cellule de base du monde nouveau ». Quand dans la société, les parents ne sont pas capables d'avoir des liens chaleureux avec leurs enfants et que les enfants pensent que leurs parents sont des cons, on a un gros problème. Il y a un fossé comme il n'y en a jamais eu, un fossé de génération, et ça mène au désastre. Donc, à mon avis, il faudrait réapprendre à créer un lien. Moi, tout de suite, l'image me vient d'une tribu, par exemple, où on peut penser aux Zoé. Il y a un documentaire, justement, sur YouTube, sur les Zoé. Et ils vivent nus, ils vivent tous ensemble. Dans ces sociétés-là, les enfants sont toujours avec les parents. Et puis, ils apprennent à faire un peu de tout. Ils ne sont pas des spécialistes. Les enfants apprennent à faire autant les tâches ménagères que d'aller chasser, que de s'occuper des autres. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on cherche à nous spécialiser. Et on est tellement spécialisé que nos parents ne peuvent même pas nous aider dans notre domaine. C'est là, à mon avis, la coupure. Si on était capable de vivre en petite tribu où tout le monde apprend à faire un peu de tout, mais aussi peut-être notre spécialisation dans la tribu ou dans la communauté, alors je crois que ce serait plus facile de s'intégrer. Il y aurait moins de suicides. Il y aurait un support toujours qui serait là pour tout le monde.
Hmm. Je pense qu'il existe des technologies beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples, comme par exemple utiliser le principe de la gravité, tu sais, pour faire couler de l'eau et donner une pression. Tu n'as pas besoin d'avoir une pompe de 500 000 watts qui pompe de l'eau très fort dans les tuyaux de la ville de Montréal pour arriver à une pression. Tu as juste besoin que ton eau soit située assez de centaines de pieds en haut, où il y a une réserve, un réservoir, qui le fait qu'il tombe en bas en chute libre. La pression est énorme quand il arrive en bas, puis tu as de la pression dans ton robinet. Ça, c'est juste des principes qui expliquent un peu une technologie ou une pensée plus gentille et qui ne nécessite pas de la technologie très complexe pour maintenir des choses comme utiliser le principe de la gravité ou du soleil et de son mouvement pour l'énergie solaire, ces choses-là. Il y a des choses comme ça qu'on peut des fois voir et qui peuvent nous aider à vivre une vie plus simple et moins complexe, qui ne demandent pas autant de spécialistes dans toutes ces choses-là. Donc, il y a quelque chose à dire là-dessus.
Puis tu parlais également, Nicolas, des enfants envers leurs parents. Donc, évidemment, si les parents sont toujours en train de contrarier, d'en faire des empêchements, d'être moralisateurs, de leur dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, ils sont tout le temps brimés dans leur spontanéité, dans leur élan, dans leur liberté, dans leur goût de vivre leur vie à leur façon. C'est sûr que la dynamique, comment tu veux que les parents les voient, que les enfants, comment tu veux qu'ils imaginent, qu'ils les trouvent pas cons. Leurs parents, si c'est constamment, ils ne sentent pas aucun appui, aucune dynamique, je ne sais pas trop. Je ne suis pas quelqu'un qui me suis renseigné sur l'éducation des enfants. J'en ai pas, je ne vais pas en avoir non plus, mais l'éducation des enfants, j'imagine que ce n'est pas facile. Comment est-ce que les gens savent vraiment bien s'y prendre?
Ben, regarde le modèle africain, souvent, ouais. Où l'enfant appartient au village. Hein? Il appartient pas juste à la famille de monsieur et madame. T'sais. L'enfant se promène dans la rue, puis s'il fait un mauvais coup, ou s'il est en problème, quoi que ce soit, tout le monde tend la main pour l'aider, parce qu'il fait partie du village. Cette mentalité-là a des qualités. Je dis pas que c'est le modèle idéal, je dis pas que c'est le modèle parfait, mais il y a des éléments là-dedans qui seraient à retenir, parce qu'un enfant qui est perçu, qui fait partie d'un tout, d'après moi, il est beaucoup plus fort et il y a aussi en même temps une distribution de la lourdeur de la charge de prendre soin d'un enfant. En ce moment, les enfants, comme on sait, c'est dans ta cour et puis c'est toi qui es responsable pour ça. Ça amène aussi beaucoup de pression avec les autres sujets qu'on a parlé tantôt, de compétition puis d'individualité.
C'est sûr que ça ne doit pas être facile d'avoir des enfants aujourd'hui. Je pense que le problème est justement dû au fait qu'il y a eu un bond technologique tellement élevé que les enfants peuvent apprendre beaucoup de choses. Avant, tu devais demander à tes parents ou tes grands-parents pour qu'ils t'apprennent des choses. Il y avait ce lien de communion, d'enseignement qui était là. Mais aujourd'hui, je pense que même moi, si j'étais un enfant, j'irais chercher mes réponses sur Google.
Oui, mais il y a une chose qu'il faut aussi faire la part des choses. Ça semble évident, mais c'est pas dit. Là, la nouvelle génération ou les récentes nouvelles générations utilisent beaucoup l'informatique pour arriver à leur réponse. Mais au bout du compte, là, comme la joke en anglais, « Oh, there's an app for that », une application pour cette tâche ou ce problème, n'importe quel problème que tu fais face. T'sais. J'avais vu un cartoon, une bande dessinée une fois, l'hiver, où ce que le père disait à son fils, tiens, voilà l'appel. There's no app for that. Il fallait déneiger la neige. Il n'y a pas d'application pour enlever la neige. Sors l'appel puis pelte. C'est la même affaire pour faire pousser de la nourriture. C'est la même affaire pour construire une maison. Il n'y a pas une application qui fait ça. T'sais. Donc, il faut quand même faire le raisonnable avec l'informatique.
Le problème est tellement grave présentement, à mon avis, que les enfants, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut éduquer les éducateurs parce que c'est eux qui ont une influence sur leurs enfants et puis qui sont là avec eux. Donc, les adultes qui font des enfants, sans être adultes eux-mêmes, parce que pour moi, être adulte, ça dénote une sagesse aussi, une ouverture et de la conscience, vivre dans l'éveil, dans la conscience. Mais si les gens vivaient dans cet état-là puis ils avaient des enfants, ben ça irait de soi. Mais les gens sont des autoclos aujourd'hui, sont fermés, sont souvent des spécialistes. Hein. C'est ça le chômage. Moi, je m'efforce d'inventer toujours des nouvelles manières de faire de l'argent, des nouveaux services, mais aussi des choses à vendre. Mais c'est comme en un perpétuel, dans cet état perpétuel qui me fait que je veux rester indépendant. Et je pense aussi au futur où il y aurait justement ce type de société plutôt d'échange où tu as des choses. Parce que ce que tu as dit, Jacques, tantôt, c'est une belle interrogation. Quelqu'un qui dit qu'il est un spécialiste en telle chose, il peut juste s'échanger une chose. Mais je pense que ce type de personne-là ne pourra pas survivre aux grands changements qui s'en viennent, aux grands réajustements, parce que tout est comme débalancé présentement. Il y a les gens qui jouent avec le climat, qui s'inventent Dieu sans avoir la sagesse de l'être vraiment et qui déplacent un peu les choses. Donc, on peut s'attendre dans les prochaines années d'avoir des extrêmes de froid, de chaud, de complètement nul. Tout d'un coup, il se met à pleuvoir, et tout d'un coup, il se met à neiger en plein été. Et c'est des choses qui sont prévues par l'appareil manipulateur plutocratique parce qu'ils vont capitaliser là-dessus. Ils vont tout briser les cultures, etc. Et puis, on va juste pouvoir acheter de la nourriture d'un maître qui va contrôler qu'est-ce qu'il met dedans. Voyez-vous le danger dans lequel on s'en va?
Ça s'annonce pas facile, mais je crois que l'idée de penser en termes de communauté puis d'en créer une ou de s'associer avec des gens qui veulent et désireux de créer un monde meilleur pour eux-mêmes et la génération suivante, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et puis je suis content qu'on en a parlé aujourd'hui.
Ben, ça donne le goût d'être curieux aussi de découvrir où les gens vivent. Je parlais dans les campagnes, les endroits où les gens sont dans l'agriculture urbaine aussi, c'est en ville. Donc là évidemment, ils sont pas axés, c'est pas l'ensemble de leur activité qui est centralisée sur la culture, mais en campagne, quand les gens font un mode de vie, ils sont entre eux et leur activité sert à entretenir leur espace de vie. De trouver une façon d'être autosuffisant dans la nourriture. Peut-être que les gens peuvent être très heureux à vivre cette réalité-là et ne plus avoir presque aucun besoin d'avoir accès à la ville. Est-ce que les gens... Moi, je serais intéressé à aller les rencontrer juste en parlant comme ça. Si j'ai déjà eu l'idée, moi, j'aime beaucoup... j'ai fait les vendanges, la vigne plusieurs fois. Mais je me rendais compte que ça peut être très, très exigeant, tout ce qui est agriculture. Prendre soin d'une vigne, ça paraît bucolique et très beau, accès au bacchanal, etc. Mais prendre soin d'une vigne sous le soleil tous les jours, ou même quand il pleut, d'avoir à les cueillir, ces raisins-là, c'est beaucoup de travail, tout le processus de vinification. Là, on a juste un des aliments. C'est beau que j'aime bien le vin, mais j'aime bien aussi les aliments, la viande et les légumes. Donc, je me dis, là, évidemment, on parlait de troc. C'est sûr que si notre voisin fait le vin, nous, il y en a un qui va faire les légumes à côté.
Ben oui, comme par exemple, moi, je fais très bien les sites Internet. C'est très facile pour moi de faire un échange avec des clients parce que je le fais bien. Je le fais avec amour et passion, mais j'ai une grande diversité dans mes services. Donc, je peux toujours aller chercher quelque chose avec une de mes clientes. Je fais un échange, elle me retape mes textes. Moi, retaper mes textes, c'est douloureux parce que je tape très, très, très lentement, mais j'écris très vite. Donc, je le fais en même temps. Ben, moi, je fais son site Internet. Elle est contente. Elle n'a pas besoin de payer quelqu'un pour faire un site web. Et en même temps, elle m'aide vraiment beaucoup en retapant mes textes. Mais c'est simple, c'est tout simple. Et quand on pense à ces choses-là, on devient vaste. Et si tu y penses sans cesse, ben, tu vas développer des services que tu peux échanger. Moi, le gros danger des syndicats ou d'une job à vie, c'est vraiment ça. Tu deviens pauvre. Les gens qui ont un emploi, une manière de faire de l'argent, je trouve ça très pauvre maintenant. Et ils sont sujets au chômage. Et ils sont sujets au saut d'esprit des gens en haut qui vont décider du jour au lendemain de changer ci, de changer ça.
Exactement. C'est l'antithèse de l'autonomie et de l'autosuffisance. Alors, apprenez à être autosuffisant, mes amis. N'hésitez pas à vous intéresser aux choses de la vie, que ce soit de faire de la nourriture, de pousser des plantes ou de réparer une voiture ou que ce soit quoi que ce soit. Toutes ces petites choses-là ont une place. Et puis, peut-être que l'ère des hommes à tout faire va revenir en grande.
Bien, je pense que c'est ça. la communauté amène à se diversifier, à se donner des options. C'est le contraire de la société qui nous referme sur nous-mêmes en petits couples ou en petites personnes de rien. Et c'est ça qui va être très difficile parce que présentement, le momentum est différent. Le momentum est complètement différent, en tout cas en Amérique du Nord. Alors, je vous souhaite de penser à ça cette semaine. Et si vous avez des questions ou des réponses, partagez-nous-les sur notre site propossurlebonheur.com. On va finir avec une chanson de Zaz qui s'appelle « Ensemble ». Il me reste qu'à vous souhaiter bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Bonne semaine, à la prochaine.